Vivraphone, avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon, présente. Le Lys et le Lion, sixième épisode des Rois Maudits. Première partie, les nouveaux rois. Le mariage de janvier.
De toutes les paroisses de la ville, en deçà comme au-delà de la rivière, de Saint-Denis, de Saint-Cuthbert, de Saint-Martin cum Gregory, de Saint-Mary Senior, de Saint-Mary Junior, des Shambles, de Tanner Row, de partout, le peuple d'York, depuis 2 heures, montait en file ininterrompue vers le Minster, vers la gigantesque cathédrale encore inachevée en sa partie occidentale et qui occupait, haute, allongée, massive, le sommet de la cité. Dans Stonegate et Deangate, les deux rues tortueuses qui aboutissaient au yard, la foule était bloquée. Les adolescents perchés sur les bornes n'apercevaient que des têtes, rien que des têtes, un foisonnement de têtes couvrant entièrement l'esplanade. Bourgeois, marchands, matrones aux nombreuses nichées, infirmes sur leurs béquilles, servantes, commis d'artisans, clercs sous leurs capuchons, soldats en chemise de maille, mendiants en guenilles, étaient confondus ainsi que les brindilles d'un foin bottelé. Les voleurs aux doigts agiles faisaient leurs affaires pour l'année. Aux fenêtres, en surplomb, apparaissaient des grappes de visage. Mais était-ce une lumière de midi que ce demi-jour fumeux et mouillé? Cette buée froide, cette nuée cotonneuse qui enveloppait l'énorme édifice et la multitude piétinant dans la boue. La foule se tassait pour garder sa propre chaleur. 24 janvier 1328. Devant Monseigneur William de Melton, archevêque d'York et primat d'Angleterre, le roi Édouard III, qui n'avait pas 16 ans, épousait Madame Philippa de Hainaut, sa cousine, qui en avait à peine plus de 14. Il ne restait pas une seule place dans la cathédrale, réservée aux dignitaires du royaume, aux membres du haut clergé, à ceux du Parlement, aux 500 chevaliers invités, aux 100 nobles écossais en robe quadrillée venus pour ratifier par la même occasion le traité de paix. Tout à l'heure serait célébrée la messe solennelle, chantée par 120 chantres. Mais dans l'instant, la première partie de la cérémonie, le mariage proprement dit, se déroulait devant le portail sud, à l'extérieur de l'église et à la vue du peuple selon le rite ancien et les coutumes particulières à l'archidiocèse d'York. La brume marquait de traînées humides les velours rouges du dais dressé contre le porche, se condensait sur les mitres des évêques, collait les fourrures sur les épaules de la famille royale assemblée autour du jeune couple. « Here I take thee, Philippa, to my wedded wife, to wave and to hold at bed and at board. Ici je te prends, Philippa, pour ma femme épousée, pour t'avoir et garder en mon lit et en mon logis. » Surgit de ses lèvres tendres, de ce visage imberbe, la voix du roi surprit par sa force, sa netteté et l'intensité de sa vibration. La reine-mère Isabelle en fut saisie, et messire Jean de Hainaut, oncle de la mariée également, et tous les assistants des premiers rangs parmi lesquels les comtes Edmond de Kent et de Norfolk, et le comte de Lancastre au Torscol, chef du conseil de régence et tuteur du roi. « For fairer, for fuller, for better, for worse, in thickness and in ails, pour le beau et le laid, le meilleur et le pire, dans la maladie et dans la santé. » Les chuchotements dans la foule cessaient progressivement. Le silence s'étendait comme une onde circulaire et la résonance de la jeune voix royale se propageait par-dessus les milliers de têtes, audibles presque jusqu'au bout de la place. Le roi prononçait lentement la longue formule du vœu qu'il avait apprise la veille. Mais on eût dit qu'il l'inventait tant il en détachait les termes, tant il les pensait pour les charger de leur sens le plus profond et le plus grave. C'était comme les mots d'une prière destinée à n'être dite qu'une fois et pour la vie entière. Une âme d'adulte, d'homme sûr, de son engagement à la face du ciel, de prince conscient de son rôle entre son peuple et Dieu, s'exprimait par cette bouche adolescente. Le nouveau roi prenait ses parents, ses proches, ses grands officiers, ses barons, ses prélats, la population d'York et toute l'Angleterre pour témoin de l'amour qu'il jurait à Madame Philippa.